Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Maxime Ingrand. La gourmandise de ce matin interpelle mais ne réjouit pas. Elle peut être en revanche objet de fascination. Il s'agit de l'horloge de l'apocalypse, imaginée en 1947 par un groupe de physiciens atomiques choqués par le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Sur cette horloge conceptuelle, minuit représente la fin du monde. Son réglage dépend de chaque menace qui pèse sur l'humanité, aussi bien nucléaire ou écologique que technologique. En 1947, au début de l'ère nucléaire, les scientifiques avaient placé l'aiguille à 7 minutes de minuit. En 1953, suite au test de la bombe à hydrogène, elle indiquait minuit moins 2. Après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, l'aiguille fut éloignée à 17 minutes de l'heure fatale. Attentat terroriste du 11 septembre, minuit moins 7, depuis début janvier 2018, devant l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique, il est de nouveau minuit moins 2. Nous sommes donc revenus, écrit le philosophe Jean-Pierre Dupuis dans son dernier ouvrage « La guerre qui ne peut pas avoir lieu », à un stade équivalent à celui du pire moment de la guerre froide. Avant d'être comédienne, réalisatrice, scénariste, dramaturge et saltimbanque, notre apothicaire de l'âme étudie l'orgue, la musicologie et l'histoire de la musique, puis la danse, l'acrobatie et surtout le trapèze à l'école du cirque d'Annie Fratellini. Elle instruit son corps et son âme avec des études de lettres et de théâtre à l'école de la Rue Blanche, et en 69, elle entre comme stagiaire à la Comédie Française. Elle commence alors à enchanter le public par ses écrits, son jeu et ses mises en scène pour le théâtre, le cinéma et l'opéra. Trois hommes et un couffin, La crise, La belle verte, Pourquoi pas, Qui sait tout et Gros bêta. On pourrait citer tant de ses créations devenues des classiques. Cette éclaireuse poétique et engagée a pour moteur la révolte, révolte devant un monde malade dont elle s'acharne malgré tout à transmettre avec sensibilité, profondeur et drôlerie la beauté. Bonjour Colline Serrault.
Bonjour.
La première question de cette émission, Colline Serrault, est toujours la même. Et vous, qui écrivez dans votre ouvrage autobiographique qui vient de sortir, hashtag Colline Serrault, aux éditions Actes Sud, « Nous allons de chagrin en chagrin sans se parler assez, nous bâtissons des murs de protection pour survivre qui ne nous protègent de rien du tout. » Eh bien, je vous pose cette question, quel est votre rapport à la mélancolie ?
C'est-à-dire que elle est très envahissante tout le temps, donc c'est un rapport de négation et de lutte.
Et fuite ?
Pas de fuite, non. On affronte et on s'en débarrasse. De toute façon, on sait bien qu'on est tout seul et qu'on va mourir. Mais bon, bah, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain trajet à faire sur cette planète. Et on va le faire, puisqu'on est vivant, soyons-le gaiement.
Est-ce que, Colline Serrault, vous considérez plutôt comme un être mélancolique ou angoissé ? Parce que dans votre livre, vous dites que quand vous êtes passé de la campagne à un appartement haussmannien à l'âge de 5 ans, vous avez été étreinte par une angoisse qui ne vous a plus jamais quittée.
C'est vrai que le milieu urbain, mais dans ce contexte-là, oui, on peut l'appeler aussi stress, mais dans la mesure où tout sentiment fort comme ça, négatif, est aussi producteur de valeurs positives, c'est-à-dire que le stress, ça pousse à l'action, l'angoisse, ça pousse aussi à on a une espèce de fer à repasser branché. Bouillant entre les omoplates toute la
c'est vrai
du matin au soir, mais ça pousse à l'action, ça fait qu'on est toujours vivant, quoi, même si on est angoissé et puis on cherche le calme, on est tout le temps dans un espèce d'équilibre, quoi.
Mais la mélancolie peut être terrassante et pousser à l'inactivité.
Moi, elle m'a encore jamais terrassée, mais on ne sait jamais, hein, ça peut venir. Je pense qu'il y aura un terrassement définitif un jour ou l'autre.
Oui, bon. Espérons que vous ne le sentirez pas. En tout cas, j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Vous allez convoquer dans quelques instants Colline Serrault, Lubitsch, Brecht, Clémenceau, Le Cœur Delta, Les Cyniques Grecs, Lao Tzu, Jacques Dutronc, Joseph Haydn et Paul Gauguin, juste après le morceau Lentement de Bertrand Belin et Barbara Carlotti.
Clenche.
Cou.
Couteau.
Bijou.
Bouteille.
Sou.
bibelots de Lourdes.
Marée haute.
Arithmétique.
Noël.
Père Noël.
Tabac.
Obus.
Un passant qui pue.
La nuit. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sous écrasé sur une bouche.
Carton.
Citron.
Étron.
Pinson.
Coton.
Dindon.
Houlon.
Gazon.
Avion.
Majesté.
Vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
Pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement. Tout lentement. Tout finit comme un os. Blanc comme un os. Le temps est si doux.
Oui.
Barbara.
La foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art.
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi.
Dégustant mon sorbet cassis devant la télé.
Nu.
Clope.
Rideau.
Paradis.
Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
Sacaillé des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin.
L'arrivée magique des kiwis.
Le mariage inattendu de Romola de Pulski.
Avec Nijinsky.
Le journal local.
Le journal familial.
Le savon doux, tout.
Tes commentaires et l'art sur la terre qui tourne.
Entre taf et tout. Tout s'efface lentement. Tout lentement. Donne-moi ta main. Allons descendre. Sentir ce jasmin. En bas des marches. Le temps est si doux.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Colin Serrault et d'Ernst Lubitsch.
Heil Hitler! Heil Hitler!
Heil Hitler!
Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!
Der Führer!
Heil Hitler! Heil Hitler!
Heil
Hitler!
Heil myself!
To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, film qui fit scandale à sa sortie en 1942 à cause du sujet jugé trop grave pour pouvoir en plaisanter. Et pourtant, Lubitsch pense que le ridicule, c'est ce qui tue le mieux la barbarie. Colin Serrault, pourquoi ce choix?
Parce que c'est vraiment le maître de la comédie, c'est le maître du... des grandes répliques de la, qui ne veulent pas rien dire, qui ne sont pas juste des... Comment on appelle en anglais, des punchlines. C'est vraiment... I myself, c'est tellement drôle. I moi-même, quoi. C'est toute la connerie du le crétin qui se croit supérieur aux autres, quoi. Et il a toujours été fait des films comme ça. Il a influencé les plus grands. Weiler, le deuxième film que j'adore, Some Like It Hot, certains l'aiment chaud. C'est aussi un élève de Lubitsch. Cette dérision, ce scénario absolument magnifiquement tricoté, avec comme des horlogeries, des dialogues brillants et toujours derrière un sens. C'est-à-dire, c'est le contraire de la comédie bêtasse à la française. C'est vraiment...
Vous ne nous incluez pas dedans, j'espère, Colline Théroux.
Bon, ça, après, ce n'est pas moi de juger mes propres films, mais moi, ce que j'admire, c'est ça, c'est la comédie dans ce qu'elle a d'aborder justement des sujets extrêmement graves et de... par la force du comique, de rendre les crétins ridicules, quoi.
Vous citez certains Lemcho et To Be or Not To Be, qui sont deux comédies qui soulèvent des sujets tragiques, puisque c'est souvent ça, la comédie, c'est juste le traitement qui change par rapport à une tragédie. Et c'est tous les deux des films où on se déguise et on se cache, oui, sur les faux-semblants.
C'est très, très théâtral, hein. C'est encore le cinéma des Allemands, des Juifs allemands qui ont dû se cacher et partir. Et qui était encore très proche de tous les grands dramaturges et de la culture théâtrale. C'est aussi pour ça que les dialogues sont si brillants, quoi. Mais c'était en même temps des très très grands cinéastes, dans la mesure où ils ont un montage, une rapidité dans l'élocution, dans le montage, dans une beauté dans les cadres. C'est un art nouveau qui est né avec eux, hein. C'est le cinéma qui est né avec eux. C'est pas seulement du théâtre, mais ils avaient les deux cultures, l'image et encore la grande culture théâtrale. Ce qui fait que c'est des chefs-d'œuvre qui ne vieillissent pas, quoi. On s'embête jamais quand on les revoit.
Et c'est vrai que Lubitsch a été comédien au début. Presque tous ses films sont des adaptations théâtrales.
Oui.
Il y a quelque chose d'autre qui me frappe dans ce choix, Colline Théroux. C'est un film qu'on dit d'effort de guerre. À partir de 39, Hollywood voulait que les États-Unis s'engagent dans le conflit. Et vous faites un cinéma politique. J'en parle dès maintenant, mais je pense que ça va revenir dans presque tous vos remèdes parce qu'ils sont assez engagés.
Oui. Je sais pas. Enfin, c'est-à-dire que. La politique, c'est l'organisation de la cité. Ce qui m'intéresse comme cinéaste, c'est de voir, de comprendre le monde, d'essayer de le comprendre, de l'observer, et d'en rire, de l'analyser, et de voir comment il change, comment il avance. Donc, forcément, c'est de la politique. Mais c'est pas, comment dire, je suis pas le point levé, une militante en me disant « je vais changer le monde ». Non, je vais pas le changer, je vais en rire. Et faire penser, moi aussi, chercher, en cherchant, faire chercher les autres. Mais voilà, il y a une différence entre un cinéma artistique qui regarde le monde et un cinéma politique pur et dur.
Qu'est-ce qu'ils amènent là ?
C'est quelqu'un qu'on vient de fusiller tout à l'heure.
Comment s'appelait-il ?
Attends un peu. Sauf erreur, je crois qu'il s'appelait Galiguet.
Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?
Et de qui ?
De ce Galiguet.
Maintenant, on l'enterre.
C'était un homme bon ou mauvais ?
C'était un homme dangereux.
Eh oui, bien sûr. Puisqu'on l'a fusillé, j'y étais.
On entend un extrait de la pièce « Homme pour homme » de Bertolt Brecht, mise en scène par Jean-Marie Serrault, qui interprète le rôle de Galiguet. Pièce diffusée sur la RTF en 1955 dans « Pour l'amour » du théâtre, produit par Michel Pollack. Colline Théroux, plusieurs branches de votre arbre généalogique vous lient à Brecht. Vous avez partagé une partie de votre vie avec le metteur en scène suisse Benno Besson, qui a créé avec Brecht le Berliner Ensemble, et vous a mis en scène dans le cercle de Craig caucasien. Votre père, Jean-Marie Serrault, a monté ses pièces, et votre mère, Geneviève Serrault, a été la première à traduire Brecht en français. France. Alors avant de révéler la citation, quel souvenir gardez-vous de Brecht ?
J'ai vécu avec les idées, avec les discussions, avec les images surtout. C'est surtout les images de... Il y avait comment ils appelaient ça, un Buch, Stadtbuch, enfin un livre d'images de Mercourage. Et c'était... Il y avait vraiment toutes les scènes, bout à bout, enfin comme un film en arrêté, quoi. Et c'était très frappant parce que ça je l'ai beaucoup regardé, ce livre. Bon, évidemment, il parlait tout le temps de Beckett, de Ionesco, de Brecht à la maison, et puis il le connaissait bien.
Vous les avez tous connus aussi.
On les a, oui. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'était la beauté de ces images du livre de Mercourage. Il y avait une espèce d'authenticité dans les matières, dans la misère qu'il décrivait, qui était la misère de l'Allemagne d'après-guerre, hein, parce que les Allemands, ils ont payé très cher leur hubris. Et ils ont été vraiment, vraiment dans la misère. Donc ces images, c'est la beauté de ce que jouait la Weigel, qui était quand même une actrice avec cette espèce de tête de cheval. C'était tout d'un coup, on voyait arriver sur scène des gens qui étaient pas maquillés, qui avaient des vrais haillons et puis les matières étaient très 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 soignées. L'espèce de charrette qu'elle avait était des véritables avec du bois, avec des vrais roues. Enfin, on n'était plus du tout dans l'esthétique de la même époque qu'il y a eu après avec Villard où les filles avaient de l'eyeliner jusqu'aux oreilles, enfin voilà. Et c'est, on était dans une espèce d'authenticité qui, évidemment, m'a beaucoup marquée, moi, personnellement. Et puis, et en même temps, des spectacles qui étaient drôles, qui étaient intéressants, avec des grandes pièces, avec des histoires. Et je crois que les Français ont pas mal saccagé Brecht après, en faisant quelque chose de plus qu'ennuyeux, quoi. Je veux dire, le genre de truc où vous vous flinguez, quoi, à la troisième réplique, tellement c'est rasoir, quoi. Et ils en ont fait ça, hein, de Brecht. Et nous, avec le Cercle de Craie, on a voulu faire autre chose. On a voulu faire un théâtre coloré, drôle, émouvant, avec une très grande histoire et des mythes. Et ça aussi, c'est Brecht. Enfin, surtout ça, d'ailleurs.
La citation que vous avez choisie pour l'émission, Colline Serrault, elle est de Brecht, et c'est « Ce qui est important, c'est ce qui est devenu important ». Comment l'entendez-vous ?
Avec mes deux oreilles.
Pas mal. Certains n'en ont pas deux.
Non, ça veut dire c'est que n'ayons aucune... Enfin, restons modestes vis-à-vis de ce que nos contemporains disent comme bien ou mal de nous. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de sédimentation qui s'opère dans le temps et que les choses importantes deviennent importantes. C'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement frappée quand j'étais petite. J'avais un bouquin encore de littérature de ma mère où il y avait marqué tous les grands poètes de l'époque. Ils sont totalement, totalement oubliés. Et il y avait une petite note en bas de page, attardés et égarés, Verlaine et Rimbaud. Donc là, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils avaient une vie dissolue et qu'on était en plein catholicisme vraiment frénétique, et que c'était le 19e siècle puritain, et puis de toute façon, on ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Et finalement, bah, c'est eux, quoi. Les autres ont été oubliés. Si vous regardez la liste des prix Goncourt et tout ça...
C'est vrai, beaucoup d'inconnus pour nous aujourd'hui. Hein.
Et donc, en même temps, bon, bah, c'est bien. À une époque, on célèbre des gens qui, à leur époque, ont une importance, et il ne faut pas la nier. Mais... ce qui va durer, on n'en sait rien, disons.
On ne peut pas le prévoir.
On ne peut pas le prévoir. Il y en a qui ont du flair.
Il y a une autre citation qui vous appuie, Colline Serrault, elle est de Georges Clemenceau. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Il y a un côté un peu décourageant dans cette citation. A-t-on vraiment été remplacé ?
Oui, tout a été remplacé. Non, mais on passe comme un météore, on laisse peut-être des traces sous forme de beaux enfants ou d'œuvres, qui c'est parfaitement aussi égal, hein. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Ou alors on fait des jardins, on fait des choses. Mais la vanité qui consiste à penser que quand tout va s'effondrer, quand on partira, il faut la relativiser, quoi.
Puis tout s'est effondré avant qu'on parte.
Oui, parce que voilà, en plus, non, je dis ça beaucoup pour les acteurs, parce que souvent les acteurs pensent qu'ils sont irremplaçables, extraordinaires, tout ça, et puis finalement on les remplace très bien.
Certains d'entre eux le sont. Quand je pense à Louis Jouvet, je le trouve assez irremplaçable.
Oui, il a été, mais quand vous écoutez, il parle très faux. Louis Jouvet par rapport à maintenant, je supporterais plus comme il joue. Regarde le lustre et articule. mais c'était Jouvet. Mais c'est bien les gens qui sont ce qu'ils sont pendant qu'ils sont, mais c'est pas irremplaçable, quoi. Et puis il faut laisser avec cette idée la place à la jeunesse de prouver qu'elle est bien, qu'elle peut faire mieux, qu'elle a sa place, quoi.
Prouvez-le et on vous laissera la place. Qu'est-ce qu'on entend, Colline Serrault ?
Eh bien, c'est un extrait de l'oratorio de Noël qui s'appelle « Ereza et dir Gott », qui est un peu signature, la signature du chœur Delta, parce que c'est un très 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 beau choral, très beau chœur. Et d'ailleurs, moi je dis toujours dans les concerts que ce chœur devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
D'ailleurs, le Chœur Delta, vous l'avez créé, Colline Serrault, en 2003. C'est un ensemble amateur composé d'une cinquantaine de passionnés qui interprètent de grands extraits du répertoire et de la musique ancienne et classique. L'activité qui vous grise, c'est de le diriger, ce chœur, justement. Et là, vous parlez de rembourser par la Sécurité sociale. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans votre direction de ce chœur, c'est que vous insistez pour que tous les concerts soient gratuits.
Oui. Ils sont gratuits, ils sont souvent, pratiquement toujours même, dans les églises ou des temples parce que l'acoustique est belle, et aussi parce que c'est le patrimoine des gens, parce que c'est beau, c'est gratuit, c'est beau. Et on est au chapeau, donc les gens donnent ce qu'ils veulent. Ça veut dire les riches payent pour les pauvres et les pauvres payent comme ils peuvent. Et puis, et surtout, ce qui est vachement bien dans l'histoire du chapeau et les concerts gratuits, c'est que vous n'arnaquez pas. Si les gens n'ont pas aimé, ils s'en vont, ils donnent rien. Vous êtes obligé d'être très très bon parce que vous êtes responsable vis-à-vis du public. Ce qui est un truc qui est pas mal quand même, quand on pense à certaines programmations dans les théâtres subventionnés.
Colline Serrault.
D'être responsable vis-à-vis du public, c'est pas mal.
Et même responsable, tout court, c'est un mot qui se perd un peu.
Oui, peut-être, oui.
Vous dites, Colline Serrault, ce qui est grand touche tous les humains, quelle que soit leur différence. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, la communion.
Oui, mais on est tous faits de la même pâte, on sort du même endroit et on ira au même endroit. Et avec des cultures différentes, des histoires différentes, mais à partir du moment où ça atteint un certain niveau de génie, justement, dans la manière d'aborder la vision du monde et de la raconter et de la traduire, alors vraiment là, on touche tout le monde. Ça, moi, je le vois dans ces concerts où on chante des choses qui sont pas forcément, enfin, on chante des chefs-d'œuvre et des trucs que moi j'adore, mais si vous voulez, eh bien, les gens, ils en sont fous et ils ont pas forcément de leur vie écouté de la musique classique. Et puis, on voit ça aussi en peinture. Les gens aiment la peinture contemporaine ou la peinture ancienne. Et au fond, c'est le peuple qui finira par définir ce qui est grand. Parce que justement, c'est ce qui va rester.
On va parler de quelque chose qui reste juste après. Et il y aura un clochard céleste aussi qui nous rejoindra juste après un morceau de la playlist Inter, Falls into the Surf.
Taking all
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Colline Serrault. Vous avez choisi de nous parler des cyniques grecs et notamment de Diogène dont les histoires sont passées à la postérité. Et je rappelle rapidement pour les auditeurs que cynique, ça vient de chien, ça a toujours été péjoratif. Et vous, vous allez les réhabiliter, Colline Serrault.
Ah oui, il se revendiquait des chiens. Diogène, il y a plein d'histoires, il n'a rien écrit, c'est ça qui est intéressant. Il n'a rien écrit.
On a quelques lettres, je crois. Sa correspondance, mais pas de texte théorique.
Il n'y a aucun texte, il a pourtant... il n'a pas tellement... Il a agi et il a dit des choses qui sont restées gravées en lettres d'or dans la tête des gens. Par exemple, il détestait Platon. Et Platon était très riche et avait des tapis, avait des trucs très luxueux. Il faisait régulièrement des grandes réceptions où tout le monde arrivait par un grand péristyle couvert de très beaux tapis. Il venait se goinfrer de toutes sortes de mets délicieux. Et alors Diogène arrive de là, sur ce tapis, pieds nus, comme toujours, il était à moitié nu toujours, et il marche sur le tapis et il dit « Je foule aux pieds la vanité de Platon ».
Simple, une arrivée simple, quoi.
Voilà, simple. Et puis il y avait aussi un petit crétin qui avait un très très beau manteau en mouton, en laine de mouton, et qui était là à se pavaner, à se vanter, à se montrer partout comme une espèce de diva. Et lui, Diogène a dit mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui s'attribue les mérites du mouton, quoi. Ouais. Et puis encore une autre histoire de Diogène. Alors là, il vivait dans un tonneau, et il était très très admiré. Et un jour, Alexandre le grand, l'empereur de tous les territoires arrive. Et il admirait énormément Diogène. Il vient devant son tonneau et lui dit Diogène, je t'admire tellement. Écoute, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai parce que je pense que tu es le plus grand homme de ce royaume. Et Diogène lui dit Alexandre, pousse-toi un petit peu, tu es devant mon soleil.
Et ça, c'est merveilleux comme anecdote. Moi, je connais celle où il est devant une statue en train de mendier et quelqu'un passe et lui dit « Mais que fais-tu ? Tu demandes de l'argent à cette statue, elle ne t'en donnera jamais. » Et il dit « Je m'entraîne à l'échec. »
Oui, et puis pour finir, celle où il est en plein midi avec une lanterne sur le marché à Athènes, et il y a des centaines et des centaines de gens, et il est là, avec sa lanterne, il cherche, et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais avec cette lanterne en plein midi? Il dit, mais je cherche un homme.
Mais parce que ce qu'il prône, Diogène, c'est quand même très difficile d'y adhérer. Alors les principes du cynisme, c'est le culte de la dérision, c'est l'impertinence érigée en règle, le mépris des convenances sociales et le culte de la vertu. Et là, c'est un ascétisme où Diogène, en fait, se débarrasse d'absolument tout.
Oui, il voit un gosse qui mange son riz dans sa main et il jette son écuelle. Et puis il en voit un autre qui boit à la fontaine et il jette son gobelet. Oui, c'est l'ascèse. En des temps de consommation frénétique, c'est pas mal comme ascèse. Enfin, c'est une forme de décroissance intéressante.
Ça m'a fait penser à la planète verte dans La Belle Verte, Colline Serrault, cette autosuffisance, en fait, et se contenter de ce qu'on a.
Oui, puis de ce que la Terre vous donne, hein, qui est précieux et qui nous fait vivre. Et puis, ne pas trop s'attacher aux objets. C'est comme les aborigènes, par exemple. Pendant des mois, ils fabriquent dans leur marche des instruments de musique. Et puis, ils arrivent à la fête où ils doivent jouer la musique. Ils jouent de la musique comme des fous toute la nuit. Et ils ont construit des très, très beaux instruments de musique. Mais le matin, ils les laissent là. Ils les abandonnent parce qu'ils s'en fichent de l'instrument. Ce qui compte, c'est ce qui n'est pas palpable. Ce qui est sorti, c'est la musique. C'est pas qu'il faille forcément jeter tous les Steinway, mais
puis c'est un peu lourd.
Mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai dans le fait que on pourrait peut-être se détacher un peu plus. Et moi y compris. Hein.
Vous y arrivez justement, Colline Serrault ?
Pas toujours, non.
Mais ça vous travaille ?
Je pense qu'une forme de décroissance et de déconsommation va d'abord être obligatoire, parce qu'il y aura un mur écologique qui va se présenter sous la forme d'un mur économique, et que ça sera peut-être pas si mal.
Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. Le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Sans nom, il représente l'origine de l'univers. Avec un nom, il constitue la mère de tous les êtres. Par le non-être, saisissons son secret. Par l'être, abordons son accès.
Didier Sandre lit un extrait du Tao Te King, le livre sacré de la voix et de la vertu attribué à Lao Tzu, une œuvre qui vous soutient, Colline Serrault. C'est l'ouvrage chinois le plus traduit au monde et vous l'avez dans la traduction du médecin, prêtre, jésuite, missionnaire et sinologue Léon Vigueur.
Oui, il a fait une traduction qui est très... qui n'est pas absconde, qui est très facile à entendre et à comprendre pour un occidental, alors que souvent, et il met toujours les plusieurs sens, il y a plusieurs sens, et il les écrit. Au lieu d'en choisir un, il met l'ambiguïté des sens qui est dans les caractères chinois. Et il n'est pas moralisateur, pourtant c'est un jésuite, mais elle est extrêmement limpide, extrêmement claire à comprendre. Parce que souvent, c'est un peu, on se dit, oh là là, le Tao, oh là là.
C'est très énigmatique, c'est 80 très... préceptes.
Voilà, mais c'est pas si énigmatique que ça. C'est assez simple comme philosophie. Enfin, en tout cas, ça peut l'être.
En quoi ce livre est-il un appui pour vous, Colline Serrault?
C'est curieux parce que ça a un effet de calme. Ça désangoisse tout d'un coup ce livre-là. Par exemple, là, je vois ça. Sans franchir sa porte, on connaît l'univers. Sans regarder par sa fenêtre, on aperçoit le chemin du ciel. Plus on va loin, moins on connaît. Le sage connaît sans voyager, comprend sans regarder, accomplit sans agir. Donc c'est paradoxal, mais c'est aussi là une philosophie du retour en soi-même et de l'adéquation totale entre ce que nous sommes et le cosmos. Et on n'est pas différent. Tout ce qu'on connaît, en fait, on connaît tout. Il faut simplement, par moment, accepter de descendre en soi et se calme. Puis il y a sur l'eau, c'est très très beau aussi, dans le Tao, la bonté suprême est comme l'eau. C'est tout le temps l'eau, le principe féminin de l'eau qui est valorisé. Alors donc, qui favorise tout et ne rivalise avec rien. En occupant la position dédaignée et basse de tout humain, elle est proche de la voie du Tao. En ne rivalisant avec personne, elle est irréprochable.
Il y a la vertu et l'humilité qu'on retrouve aussi chez les cyniques, Colline Serrault. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à nouveau à La Belle Verte et à Solution locale pour un désordre global, votre documentaire, puisqu'il y a cette idée, comme vous venez de le dire, de s'unir au cosmos. Et je pense aux gens déconnectés qui enlacent des arbres dans La Belle Verte.
Oui, ça peut paraître sur le moment un peu yogi yogourt. Hein. J'ai pas une passion pour les yogi yogourts.
J'aime bien les yogourts, mais les yogis, j'en connais pas.
Non, mais les gens un peu comme ça. Mystico-yogourt, hein, j'appelle ça. C'est très concret, c'est-à-dire que c'est une vision qui est proche d'ailleurs d'une vision féministe, c'est-à-dire rien ne nous appartient, on n'est pas supérieur à quoi que ce soit, on n'est pas différent, ni des animaux, ni du règne des plantes, on est arrivé bien après eux, et on est probablement relativement moins évolué qu'eux, sûrement même, alors que souvent on nous dit qu'on est les êtres les plus évolués du règne vivant. Je pense plutôt que c'est l'inverse et qu'on est vraiment comme des nourrissons à peine nés qui s'acharnons pas mal à nous détruire nous-mêmes. Bon, ça nous passera, hein, peut-être. On le verra pas, nous. Hein. Ça, c'est des grandes mutations qui se passent sur des millénaires. Hein.
Colline Serrault, il paraît que vous avez eu une expérience fondatrice avec un arbre pendant l'écriture de La Belle Verte.
Eh oui, j'étais vraiment à sec. Là, je n'arrivais plus à trouver la suite de l'histoire ni comment... Et puis voilà, bon bah j'ai eu cette vision un jour mais que tout le monde peut avoir, qui était très simple, hein, c'était des arbres qui bougeaient dans le vent, quoi. Mais tout d'un coup, j'ai compris que bah, les arbres c'était des êtres qui avaient une vie et qu'on connaissait pas du tout et qui probablement aussi intéressante et passionnante que la vie de n'importe quel humain. Et puis ça a été vraiment confirmé. J'ai lu il y a pas très longtemps un bouquin qui est un best-seller que tout le monde a lu, La vie secrète des arbres. Et ça m'a beaucoup conforté dans cette vision que j'avais que c'est des mondes qui sont très organisés, qui sont à la fois en rivalité, mais beaucoup, beaucoup en entraide. C'est tout à fait autrement que la représentation qu'on en a faite. Le règne animal et le règne végétal sont, on en fait partie totalement et on n'est pas supérieur à eux. Et puis c'est surtout qu'ils ont une gestion, une économie entre l'eau et les quand ça manque, quand il y en a trop, quand etc. C'est vraiment des êtres qui s'adaptent, quoi, et d'une manière extrêmement puissante, extrêmement complexe, et dont la chimie n'a pas du tout été commencée encore à être étudiée, pas plus que par exemple les animaux du sol. Là, Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des génies absolus, qui devraient avoir le prix Nobel déjà depuis au moins 20 ans, qui s'occupent de la microbiologie des sols, c'est pareil, personne ne connaît ce qui se passe sous nos pieds, on ne sait pas. On connaît même pas l'hygrométrie hein, qu'il y a sous la terre, mais on connaît même pas les animaux. Dans une terre normale et non triturée par la chimie, il y a des tonnes d'animaux. On les connaît pas, on les étudie pas, mais c'est eux qui nous font vivre. S'ils y sont plus, ben on a des terres désertes bourrées de pesticides comme sont la Beauce et la Brie, qui sont des déserts en puissance s'il n'y a plus la chimie. Donc voilà, c'est toute cette hubris humain qui s'est occupé de ce que peut-être qu'il devrait s'occuper d'autre chose un peu quoi.
J'en profite pour saluer les vers de terre qui font un travail admirable pendant qu'on ne fait pas attention à eux ou que certains les torturent.
Oui, et puis il n'y a pas que les vers de terre, il y a les collemboles, il y a des centaines et des centaines de milliers d'espèces dans un sol, comme ça, juste. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été étudié, c'est considéré comme sans importance, alors que c'est ça la fertilité, et c'est ce qui nous nourrit. C'est ces animaux qui sont capables d'aller chercher plus loin que la terre, dans la roche, qui est en dessous de l'humus, l'humus c'est tout petit, hein, les éléments, les micro-éléments qui font qu'on peut survivre.
On va s'intéresser à d'autres animaux, des animaux citadins qui grouillent de la même façon, mais sur deux pattes. Il est temps de découvrir aux antidotes musicaux. Colline Serrault.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Colline Serrault qui vient de nous faire entendre un morceau culte de 1968. Il est 5 heures, Paris s'éveille, interprétation et musique. Jacques Dutronc, bien sûr, parole de Jacques Lanzmann. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette chanson, Colline Serrault?
C'est la vie un peu noctambule de la jeunesse où on passe un peu les nuits dehors. C'est vraiment le vrai Paris de cette époque-là. De notre jeunesse. Et c'est aussi Dutronc avec son humour, et c'est sa belle gueule, quoi, qui est hallucinante de beauté, puis de décontraction, mais en même temps, Il a une très très belle voix et elle est travaillée, sa voix. Il fait comme s'il y touchait pas, mais il est très très bon, quoi. Et puis les paroles sont remarquables, les rimes sont rigolotes, et puis la musique est bien. Et alors, il y a quand même une touche de mélancolie. J'ai pas sommeil, quoi. J'arrive pas à dormir. Il y a un truc qui va pas, quoi. Dans ma vie ou dans mon esprit. Et puis, l'histoire est très belle parce que, à la fin de l'enregistrement, ils ont trouvé que c'était un peu plat. Et ils savaient pas très bien comment arranger le morceau. Et juste à côté, il y a dans un studio à côté, il y avait un flûtiste qui s'appelle Roger Bourdin, qui est un flûtiste classique, et qui sortait du studio et ils lui ont dit, tiens, vous voulez pas faire un truc? Et le gars, en une seule prise, il a improvisé.
Incroyable.
Ce morceau de flûte qui est extraordinaire.
Ah oui.
A complètement improvisé en une seule prise. C'est un génie, le gars. Et ça donne tout son cachet à cette chanson qui est avec cette désinvolture, cette beauté, ces envolées comme ça, pleines de trilles. Je trouve que ça a une poésie formidable.
On entend le duo entre Adam et Ève dans l'oratorio La Création de Joseph Haydn, numéro 11, interprété par Anne Monoyos et Jörg Hering. La création de l'univers, tout simplement, Colin Serro.
Ouais, c'est c'est très beau. Et là, je trouve que c'est vraiment bien chanté. Souvent, j'allais sur YouTube voir un peu comment c'était. C'est souvent chanté par des chèvres, hein, franchement. Comme ça, enfin.
Je connais quelques chèvres qui chantent assez bien.
Oui, mais. Il y a des gens, franchement, ils n'ont pas de goût. Mais bon, mais là, c'est remarquable, quoi. C'est Adam et Ève qui découvrent le monde et ils disent, ah, il est grand et il est wunderbar, il est merveilleux. Cette simplicité, comme ça, de ces deux jeunes-là qui découvrent le monde, je trouve ça très, très bouleversant.
Il y a un autre compositeur qui est très important pour vous, Colin Serro. Vous lui consacrez d'ailleurs un chapitre dans le livre hashtag Colin Serro, c'est Bach.
Oui, c'est l'homme avec qui j'ai vécu le plus, hein, dans ma vie.
Il est fidèle ou pas?
Il est très, très fidèle. Oui, puis moi, je ne demande pas aux gens d'être fidèles. Moi, je ne le suis pas. Hein. Donc, je m'en fous complètement de la fidélité. Par contre, le génie, ça me plaît. Depuis toute petite, depuis que on écoutait toujours du Bach, on en jouait à la maison, mes parents, ma mère surtout. Et j'ai toujours eu besoin, une fois dans la journée, ou d'en jouer, ou d'en entendre. Beaucoup, évidemment, d'en faire chanter, d'en chanter moi-même. La chose que je dis dans le bouquin, c'est que c'est vrai que la musique de Bach, elle est à la fois très très construite, c'est très agréable parce que vous avez l'impression d'être avec une colonne vertébrale construite, oui, qui vous construit, et en même temps elle est complètement libre, elle est complètement démentielle en fait.
Je trouve que c'est très bon, très très original.
Oui.
Il n'est pas un grand faiseur, vous comprenez,
oui.
Mais il a un talent extraordinaire. Comme coloriste.
Talent ou génie?
Génie, je trouve. Génie, oui. Beaucoup plus que talent.
Oui.
Il n'a pas beaucoup de talent. Dans la même époque, j'aime mieux Degas. Parce qu'il ressemble un peu à Gauguin.
Paul Roland Gauguin, au sujet de son père, le peintre Paul Gauguin, qu'il a très peu connu, au micro de Louis Powell sur la RTF en 1960 pour introduire votre tableau anti-spleen, Colin Serro. C'est Femme au bord de la rivière de Gauguin, un tableau de 1892. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce tableau?
D'abord, il est au musée Van Gogh, ce tableau. C'est-à-dire qu'il est planqué dans un petit coin. Et tout d'un coup, vous découvrez ça et... Moi, je suis restée complètement, absolument en arrêt. Ce que j'aime chez Gauguin, c'est pas le côté tahitien et tout, ils nous ont barbés avec ça. C'est le plus grand coloriste qui existe au monde. Je veux dire que Degas à côté, c'est rien sur le plan des couleurs. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il s'est approché de la peinture abstraite sans même le vouloir ou par justement les masses colorées, parce qu'il a réinventé le dessin par la couleur. Et il ne vieillit pas. Il y a Matisse, encore, qui est un grand dans la couleur. Je pense que Picasso vieillira plus, mais Gauguin et Matisse ne vieilliront pas.
Je répète le titre du tableau pour qu'ils aillent le voir sur Internet, à défaut de le voir en vrai, c'est « Femmes au bord de la rivière ». Et puis, c'est des femmes dénudées en communion avec la nature. Il y a un sentiment de sérénité.
Et puis, c'est surtout, c'est bleu tout d'un coup. Il y a une espèce de rivière verte. La rivière elle-même, elle est bleue, mais les arbres sont bleus, les montagnes sont bleues, tout est bleu. Et puis, il y a une tache rouge au milieu. C'est hallucinant. C'est difficile de parler de la peinture.
C'est difficile, mais j'espère qu'on a donné envie. Allez voir. Et merci beaucoup, Colline Serrault, d'être venue dans cette émission. Je rappelle que votre ouvrage autobiographique hashtag Colline Serrault est paru aux éditions Actes Sud le 9 octobre dernier. Et dedans, on découvre certaines de vos photos peintures. Et surtout, en janvier prochain, pour les auditeurs qui sont du côté de Berlin, votre pièce Lapin, Lapin sera jouée dans votre mise en scène qui remporte un succès fou. Bravo.
Au Schiller Théâtre.
Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas dit, évidemment, première sur la source. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi réjouis qu'un macaron persifleur. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Vos papis ont rendez-vous dans quelques instants avec François-Régis Gaudry et son émission On va déguster.